Chapitre 11. Lorsque le soleil atteignit les champs au loin, des gardes vinrent chercher Ariane. La princesse est demandée par ses parents. Ils l'emmenèrent au pas de course, tandis qu'on me conduisait à ma chambre, une petite pièce à proximité des logements des domestiques. C'était bien sûr destiné à être insultant, mais j'aimais le répit que me procuraient ces murs dépourvus de peinture, son étroite fenêtre qui ne dévoilait qu'un mince filet de soleil brûlant. Elle était aussi très calme, car tous les serviteurs, conscients de ce qui reposait à l'intérieur, la sœur sorcière, passaient devant sur la pointe des pieds. Ils me laissaient de la nourriture en mon absence, ne récupérant le plat que lorsque j'étais ressortie. Je dormis et, le lendemain, Dédale vint me chercher. Quand j'ouvris la porte, il sourit. Et je m'aperçus que je lui rendais son sourire. Je pouvais en remercier la créature. Nos relations étaient redevenues aisées. Je lui emboîtai le pas pour descendre une série d'escaliers menant au couloir tortueux qui courait sous le palais. Nous passâmes devant des caves à grains, des celliers remplis de rangées de pitoyes, ces grandes jarres de céramique contenant toutes les largesses du palais en huile, en vin et en orge. Sais-tu ce qu'il est advenu du taureau blanc ? Non. Il s'est volatilisé dès que Pasiphae s'est mise à gonfler. Les prêtres ont expliqué que c'était la dernière bénédiction du taureau. Aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un dire que le monstre était un cadeau des dieux pour nous aider à prospérer. Il secoua la tête. Les gens ne sont pas naturellement bêtes, c'est juste qu'ils sont pris entre deux scorpions. Ariane est différente. Il acquiesça. J'ai de grands espoirs pour elle. As-tu appris comment ils ont décidé d'appeler la chose ? Le Minotaure. 10 navires partent à midi annoncer cette nouvelle et 10 autres les suivront demain. Astucieux. En le reconnaissant, au lieu d'apparaître comme le mari cocu, Minos devient celui qui partage la gloire de ma sœur. Le grand roi qui engendre des monstres et les nomme d'après lui. Dédale émit un petit son guttural. Exactement. Nous étions arrivés à la grande pièce souterraine abritant la nouvelle cage de la créature. Elle était aussi large qu'un pont de bateau et à moitié aussi longue, forgée dans un métal d'un gris argenté. Je posai mes mains sur ses barreaux, aussi lisses et épais que des arbustes. Je sentais le fer qu'il contenait, sans parvenir à identifier le matériau supplémentaire. C'est une nouvelle substance, précisa Dédale. Plus difficile à travailler, mais plus résistante. Cela dit, elle n'empêchera pas éternellement cette chose de sortir. Cette dernière est déjà anormalement robuste alors qu'elle vient de naître. En tout cas, cette cage me donnera le temps d'élaborer un dispositif plus permanent. Des soldats nous suivaient, portant l'ancienne cage sur des perches pour garder leur distance. Ils la posèrent à l'intérieur de la nouvelle avec un bruit de ferraille, puis déguerpirent avant que l'écho ne s'évanouisse. Je m'approchai pour m'agenouiller à côté. Le Minotaure était devenu plus grand, sa chair dodue appuyant sur le grillage en fil de fer. Maintenant qu'on avait nettoyé et séché les traces de l'accouchement, la démarcation entre taureau et bébé était plus criante que jamais. Comme si un fou avait tranché une tête de bouvillon pour la coudre sur un bambin. Il empestait la viande rance, et le bas de la cage résonnait d'os allongés qui s'entrechoquaient. Une vague de nausées m'envahit, ceux d'un des prisonniers de Crète. La créature me détaillait de ses yeux immenses. Elle se leva et renifla, toute narine dehors. Un gémissement aigu et excité s'en échappa. Elle se souvenait de moi, de mon odeur et du goût de ma chair. Elle ouvrit son museau épais, tel un oisillon qui supplie. Encore ! Saisissant l'occasion, je prononçai la formule d'enchantement avant de verser la potion dans son museau ouvert à travers les barreaux de la cage. La chose s'étrangla à moitié en se ruant sur les barreaux, mais ses yeux changeaient déjà, progressivement vidés de leur fureur. Je soutins son regard, une main tendue vers elle. J'entendis Dédale respirer fort, mais elle ne bondit pas sur moi. ses membres rigides se relâchèrent. J'attendis encore un peu avant de déverrouiller la serrure et d'ouvrir la cage. Elle piétina un peu en remuant bruyamment les os à ses pieds. « Ça va aller », murmurai-je, à l'attention de Dédale ou de la créature, je n'en savais rien. J'avançai lentement les mains dans sa direction. Ses narines frémirent. Lorsque je lui touchai le bras, elle poussa simplement un petit grognement surpris. « Viens », chuchotai-je. Elle m'obéit, s'accroupissant et trébuchant un peu au moment de passer à travers la petite ouverture de la cage, les yeux levés vers moi d'un air interrogateur, presque doux. « Mon frère », c'est ainsi qu'Ariane l'avait appelé. Sauf que cette chose n'avait pas été engendrée pour une quelconque famille. Elle incarnait le triomphe de ma sœur, son ambition en chair et en os, le fouet qu'elle utiliserait contre Minos. En retour, elle ne connaîtrait ni camarade ni amant. Elle ne verrait jamais le soleil, ne ferait jamais un pas librement. Elle n'obtiendrait jamais rien d'autre du monde que de la haine, des ténèbres et ses dents. Après avoir ramassé l'ancienne cage, je reculai. La créature m'observa tandis que je battais en retraite, la tête inclinée de côté, curieuse. Quand je refermai la porte, son claquement métallique lui fit dresser les oreilles. Au moment de la moisson, elle hurlerait de rage et tirerait sur les barreaux pour les mettre en pièces. Dédale laissa échapper un soupir étouffé. « Comment as-tu fait ça ?»« C'est à moitié une bête. Sur Ea, tous les animaux sont apprivoisés. »« Ce sort peut-il être inversé ?» Pas par un autre. Nous verrouillâmes la cage. La chose nous observait toujours. Elle émettait un son bas en frottant sa joue poilue d'une main. Et puis nous poussâmes la porte en bois de la pièce et ne vîmes plus rien. « Et la clé ? » manquis-je. « J'ai l'intention de la jeter. Le jour où nous devrons la transporter de nouveau, je découperai les barreaux. » Nous revînmes sur nos pas à travers les mêmes passages souterrains tortueux et les couloirs au-dessus. Dans la salle aux murs peints, la brise soufflait, l'air était lumineux. Des nobles aux physiques avantageux passaient de tous côtés en se chuchotant leurs secrets. Savaient-ils ce qui vivait au-dessous d'eux? Ils finiraient par l'apprendre. « Il y a un banquet ce soir, » annonça Dédale. « Je n'y vais pas. J'en ai terminé avec la cour de Crète. Tu pars bientôt, alors ? Je suis à la merci de la reine et du roi dans ce domaine. Ce sont eux qui possèdent les navires. Mais j'imagine qu'il n'y en a plus pour longtemps. Je crois que Minos sera ravi de compter une sorcière de moins en Crète, et je serai contente de rentrer chez moi. » C'était vrai, même si, dans ces couloirs aux décorations surchargées, l'idée de retourner à Ea me paraissait étrange. Ses collines et sa grève, ma maison de pierre et mon jardin, tout cela me semblait très loin. Je dois me montrer ce soir, mais j'espère pouvoir m'excuser avant le repas. Il hésita. Déesse, je suis sans doute présomptueux, mais me ferais-tu l'honneur de dîner avec moi ? Il m'avait demandé de venir une fois la lune levée. Ses appartements se trouvaient à l'autre bout du palais par rapport à ceux de ma sœur. Était-ce fortuit ou intentionnel ? Je l'ignorais. Il portait une plus belle cape que celle que je lui avais vue auparavant. En revanche, ses pieds étaient nus. Il m'entraîna vers une table, versa du vin aussi sombre que les murs. Des plateaux étaient disposés, chargés de fruits et de fromages blancs salés. Comment était le banquet ? Je suis content de l'avoir quitté. Sa voix était aigre. Ils avaient invité un chanteur pour conter l'histoire de la glorieuse naissance de l'homme taureau. Selon eux, il est tombé d'une étoile. Un garçon sortit en courant d'une pièce attenante. Je ne connaissais pas encore bien les âges des mortels, mais je pense qu'il devait avoir 4 ans. Ses cheveux noirs et épais bouclaient anarchiquement autour de ses oreilles, et ses membres avaient encore une rondeur de bébé. Il avait les traits les plus doux que j'ai jamais vus, y compris chez les dieux. « Mon fils, » le présenta Dédale. Je l'ai fixé, ébahi. Je n'avais même pas envisagé que le secret de Dédale puisse être un enfant. Le garçonnet s'agenouilla à la manière d'un courtisan miniature.
« Noble dame, pépia-t-il, je te souhaite la bienvenue dans la maison de mon père. »
« Merci. Es-tu gentille avec lui ?» Il acquiesça avec sérieux.
« Oh oui !»
Dédale éclata de rire. « Ne crois pas un mot de ce qu'il dit. Il a beau avoir l'air doux comme un agneau, il n'en fait qu'à sa tête. » Le garçonnet sourit à son père. Visiblement, c'était une vieille plaisanterie entre eux. Il resta quelque temps, babillant au sujet du travail de Dédale et de son rôle d'assistant. Il apporta les pinces qu'il aimait utiliser et me montra d'un geste expérimenté comment il les maintenait dans le feu sans se brûler. J'approuvai d'un signe de tête, mais c'était son père que j'observais. Le visage de ce dernier était devenu aussi tendre qu'un fruit mûr, ses yeux brillants et grands ouverts. Même si je n'avais jamais songé avoir d'enfant, à sa vue je parvins brièvement à me l'imaginer. On aurait dit que je scrutais un puits pour entrevoir soudain de l'eau tout au fond. Ma sœur, bien sûr, avait su reconnaître un tel amour instantanément. Dédale posa une main sur l'épaule de son fils. « Icare, il est temps que tu ailles au lit. Va chercher ta nourrice. »«
Tu viendras m'embrasser pour me dire bonne nuit ?»«
Bien sûr. » Nous le regardâmes partir, ses petits talons dépassant à peine de sa tunique trop longue. « Il est beau, » complimentai-je Dédale. « Il ressemble à sa mère. » Il répondit à ma question avant que je ne l'aie posée. « Elle est morte à sa naissance. Une honnête femme, quoique je ne l'ai pas connue longtemps. Ta sœur avait arrangé le mariage. En fin de compte, je ne m'étais donc pas tellement trompée. » Ma sœur avait bien mis un appât sur son hameçon, même si elle avait attrapé le poisson autrement. « Je suis désolée. » Il baissa la tête. « C'est difficile, je l'admets. Je me suis efforcée de le materner et d'être son père en même temps, mais je sais qu'il ressent un manque. Chaque fois que nous rencontrons une femme, il me demande si je vais l'épouser. « Et c'est ce que tu vas faire ?» Il resta silencieux quelques secondes. « Je ne crois pas. Pasiphaé a déjà suffisamment de quoi me persécuter aujourd'hui, et je ne me serais jamais mariée si elle n'avait pas insisté. Je sais quel piètre époux je fais. C'est lorsque mes mains sont occupées par mon travail que je suis le plus heureux, et ensuite je rentre chez moi en retard et dégoûtant. La sorcellerie et l'invention ont ceci en commun. Je ne crois pas non plus avoir l'étoffe d'une bonne épouse, non pas qu'on se bouscule à ma porte. » Apparemment, le marché des sorcières en disgrâce est limité. Il sourit. Je crois que ta sœur a également aidé à empoisonner cette partie de ta vie. Il était facile de lui parler aussi ouvertement. Son visage évoquait un bassin tranquille qui conserve tout en sécurité dans ses profondeurs. Sais-tu comment tu vas garder cette créature prisonnière quand elle aura grandi ? Il opina. J'ai réfléchi. Tu as vu à quel point les sous-sols du palais ressemblent à un nid d'abeilles. Il y a un millier de celliers inutilisés, parce que ces temps-ci, toute la richesse de Crète est réunie sous forme d'or et non de grains. Je songe à les transformer en une sorte de labyrinthe. À les fermer aux deux bouts, pour laisser la créature courir à l'intérieur. Comme tout est creusé directement dans la roche, il n'y aura pas d'issue possible. C'était une bonne idée, et au moins le Minotaure disposerait de plus de place que dans une cage exiguë. « Ce sera une merveille, » approuvai-je. « Un labyrinthe qui peut abriter un monstre de taille adulte. Il faudra que tu lui trouves un nom approprié. » « Je suis sûr que Minos aura une suggestion qui le valorisera. Je suis désolée de ne pas pouvoir rester pour t'aider. Tu m'as aidée au-delà de ce que je mérite. » Il leva les yeux pour rencontrer les miens. Un raclement de gorge. La nourrice se tenait dans l'embrasure de la porte.
« Votre fils, seigneur !»«
Ah !» dit Dédale. « Excuse-moi. » Trop agitée pour rester patiemment assise, je déambulais dans la pièce. Je m'étais attendue à ce qu'elle soit davantage remplie de ses merveilles, avec des statues et des incrustations dans tous les coins, alors qu'elle était simple, parsemée de meubles en bois dépourvus d'ornements. En les examinant de plus près, j'y vis malgré tout la marque de Dédale. Le vernis brillait et le grain du bois était aussi doux que des pétales de fleurs. Chaque fois que je passais ma main sur une chaise, je ne trouvais pas ses jointures. Il revint. « Le baiser du soir, » expliqua-t-il. « Un enfant heureux. » Il s'assit, but une gorgée de vin. « Pour l'instant, oui. Il est trop jeune pour se considérer lui-même comme prisonnier. » Ses cicatrices blanches semblèrent tout à coup ressortir violemment sur ses mains. « Mais une cage dorée restera toujours une cage. » « Et où irais-tu si tu t'échappais ?»« Dans n'importe quel endroit où on m'accepterait. Quoique, à choisir, je prendrais l'Égypte. Ils y construisent des édifices qui, en comparaison, font ressembler Knossos à une hutte en terre. J'ai appris leur langue en parlant à certains de leurs marchands sur les quais. Je crois qu'ils nous accueilleraient à bras ouverts. » Je contemplais ce visage si agréable. Pas parce qu'il était beau, mais parce qu'il était lui-même, pareil à du métal de qualité, trempé et battu pour plus de solidité. Nous avions combattu deux monstres côte à côte, et il n'avait pas faibli. « Viens à Ea, » avais-je envie de lui proposer. Cependant, je savais qu'il n'y avait rien pour lui là-bas. Je me contentais donc de dire « J'espère que tu parviendras en Égypte un jour ».